Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet, Janine Petitbois
et
Sophie Chevance. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, c'est notre première émission de 2015. Et alors, d'abord, on vous souhaite une excellente année 2015. Et pour bien commencer cette nouvelle année, le 7 janvier, voilà les sujets dont on va vous parler. Moi, je fais un petit sujet, survivre à janvier, et ensuite les bons plans pour s'évader à petit prix, et nos envies de 2015. Alors toi, Janine, tu vas nous parler de quoi?
Eh bien moi, nous sommes sur les drogués aux séries télé, oui. Et puis, oups, peut-être que j'ai encore trop parlé au temps des fêtes. Alors, on va essayer de se corriger pour la nouvelle année.
Voilà. Et Sophie, toi, tu nous fais un sujet sur...
Sur les bénéfices de l'effort physique, parce que faire du sport, en fait, se mettre au sport ou se remettre au sport fait souvent partie des résolutions qu'on prend en début d'année et aussi fait partie des résolutions souvent que l'on abandonne assez rapidement aussi.
Il faut continuer.
Alors
faut
du
tenir.
Coup, c'est ça, pour motiver un peu les troupes, j'ai décidé de lire un petit article sur les bénéfices de l'effort physique.
Ok, super. Ben, écoutez, on vous retrouve dans une seconde. Survivre à janvier, c'est un texte de Stéphane Dompierre dans le Elle Québec de janvier 2015. Selon Stéphane Dompierre, la pire chose à faire le premier jour de l'année, c'est de prendre une résolution. Tu vois, malheureusement, c'est ça. Son conseil, continuer à manger, à boire et à dépenser. On sort du temps des fêtes comme on émerge d'une transe, étonné, sans trop se souvenir de ce qui s'est passé, coma diabétique ou coma éthylique, on ne sait plus. On a les contours de la bouche encore couverts de sucre en poudre et de miettes de beigne à l'ancienne, le foie engorgé d'alcool en tout genre et la carte de crédit dans le rouge. On consulte un calendrier et on se rend compte que oui, ça y est, on est en janvier. Une nouvelle année toute fraîche et toute propre nous accueille. Cette année est d'ailleurs beaucoup plus propre et fraîche que nous. La fête est finie. On se lève, on enjambe les bouteilles vides et les restes du buffet de la veille, puis on s'approche d'un miroir pour constater l'étendue des dégâts causés par nos récents excès. C'est pire qu'on se l'imaginait. Soucieux de stopper notre déchéance au plus vite, on s'empare d'un stylo et d'un bout de papier et on fait une liste de résolutions. Premièrement, manger mieux. Deuxièmement, boire moins. Trois, économiser. On se sent déjà mieux. On a un plan d'action. Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Animé par la culpabilité plus que par une farouche conviction, on s'élance dans les rues tôt le matin avant même que le soleil soit levé. On jogue sur les trottoirs couverts de glace noire au mépris du danger. On a le souffle court, un point de côté. Et on est serré dans nos vêtements de sport à cause de nos 10 livres en trop. On ne se nourrit plus que de yaourts sans gras, de purée d'avocat et de graines de lin. On sabre les dépenses en n'achetant plus d'alcool, plus de vêtements, plus rien. Et après, on se demande pourquoi janvier nous déprime autant. Janvier est trop froid pour commencer à courir, trop gris pour arrêter de boire et trop propice au rabais sur les vacances au soleil pour tenter d'économiser. Le premier mois de l'année est plutôt conçu pour lire dans un fauteuil sous une couverture moelleuse en buvant de grands bols de café au lait ou pour flâner sur une plage où tout est inclus, particulièrement les margaritas et le rhum punch. Les repas de salade, laitue, concombre, pas de vinaigrette peuvent attendre encore un peu. Pour notre bien, il faut éviter de prendre des résolutions qu'on ne tiendra pas plus que celles de l'année dernière et lutter contre la culpabilité. Ça implique évidemment de se tenir loin du passe-personne, de ne regarder que discrètement nos relevés de cartes de crédit et d'éviter de calculer le nombre de calories vides qu'on a intégrées pendant les fêtes. Bientôt, la météo sapera moins notre morale et on pourra s'attaquer à tous les mauvais plis qu'on a pris pendant l'hiver. L'arrivée du beau temps nous donnera non seulement la motivation requise pour dresser une liste de résolutions, mais aussi l'énergie nécessaire pour la mettre à exécution. D'ici là, on peut bien s'offrir un brunch extra bacon pour se mettre dans nos lendemains de veille. Alors voilà, ça c'était les conseils de Stéphane Dompierre. Et pour aider un petit peu à ça, Il y a aussi les bons plans pour s'évader à petit prix.
À petit prix, c'est intéressant.
Voilà, c'est par Emmanuel Martinez-Curval dans le Elle Québec de janvier 2015. Alors, changer d'air, ça n'a pas de prix. Mais pour éviter de vous ruiner en voyage, nos collaborateurs vous confient leurs astuces pour sillonner la planète à moindre coût. Alors déjà, pour trouver un vol à prix réduit, on aime priceotravel.com qui répertorie les destinations petit budget en fonction des mois de l'année et de la demande, souvent liées au climat. Voyager durant l'arrière-saison, ça paie. Un aller-retour pour Ho Chi Minh Ville à $862 au mois de mars à partir de Montréal, ça vous tente? Si le goût de la découverte prime sur le choix de la destination, et si vous n'avez pas de contraintes de temps, rendez-vous sur le site de Yule Deals. C'est yuledeals.com et Yule Air. C'est YUL, hein, chaque fois. Montréal-Yule.com. YuleAir.com qui propose des vols à prix réduit vers des destinations prisées. De nombreux transporteurs ont des comptes Twitter et Facebook. En les suivant, vous vous assurez d'être parmi les premiers à repérer les soldes et les concours. Les compagnies aériennes Sunwing, WestJet et Air Transat restent des incontournables pour les destinations ensoleillées du Sud. HipMunk, ça s'écrit HipMunk.com, possède un petit plus, l'outil Agony, qui permet de trouver le meilleur prix compte tenu de la durée du vol et du nombre d'escales. Si vous pouvez partir quand bon vous semble, google.ca/flights est certainement le site où vous pourrez dénicher la date de départ vous convenant le mieux selon votre destination. Il y a aussi, pour rencontrer les natifs, manger chez l'habitant. Au Danemark, par exemple, l'organisme meetthedanes.dk permet de partager un souper typique et convivial avec des Danois dans l'intimité de leur maison. À Nassau, le programme People to People, c'est bahamas.fr/les-bahamas/culture/people-to-people, offre l'occasion de savourer un goûter avec les Bahamiens. Enfin, la plateforme voulez-vous-dîner.com propose des repas et des activités culturelles dans 11 villes du monde, dont Paris. Dormir à l'hôtel, pourquoi donc, quand il est possible de louer un appartement par l'entremise de la populaire plateforme Airbnb. L'option la plus rentable demeure toutefois l'échange d'appart ou de maison. Parmi les plateformes sécuritaires, il y a homeholidays.com et homeexchange.com pour des séjours aux quatre coins du globe et clévacances.com pour une escapade en France. Et on joint l'utile à l'agréable en faisant appel aux greeters, des citadins amoureux de leur ville, qui la font découvrir gratuitement au tourisme.
Alors, moi, je vais vous lire un petit article sur les bénéfices de l'effort physique, un article qui date un peu, paru dans le Géo-Savoir en hors-série en septembre-octobre 2013, mais qui est vraiment très intéressant, donc qui vaut la peine d'être lu. Un article donc de Bertrand Weiss. Le sport nous fait plus de bien que ce que l'on pensait il y a peu de temps encore. Pendant l'exercice, les muscles produisent des substances bienfaisantes. Les os, articulations et organes se renforcent. Les dommages se réparent dans notre ADN. Défense immunitaire, mémoire et humeur s'améliorent. Une chose que tous les hommes savent bénéfique pour leur corps et leur âme, l'effort physique. Le sport permet de rester en forme, c'est un savoir communément répandu. Mais les chercheurs démontrent désormais, à force d'études toujours plus nombreuses, qu'il possède des vertus curatives insoupçonnées. Que l'on court, nage ou joue au badminton, l'activité physique est la méthode la plus efficace, la mieux tolérée par l'organisme et la plus variée pour repousser la mort. Avec l'adoption d'une alimentation équilibrée, le sport constitue ce qu'il y a de meilleur pour notre santé, à la fois un remède et un moyen de prévenir la maladie, une thérapie naturelle et universelle. Pendant des siècles pourtant, les scientifiques ont soutenu le dogme contraire. Pour être en bonne santé, il était essentiel de se ménager le plus possible. Contre de nombreuses maladies, les médecins prescrivaient de garder le lit des jours, voire des mois, la règle d'or étant que plus les maux étaient aigus, plus le repos devait se prolonger. Une croyance erronée que médecins du sport, chercheurs et psychologues rejettent depuis quelques années. D'un point de vue statistique aussi, il est de plus en plus évident que l'activité physique réduit le risque de souffrir de nombreuses pathologies. Diabète, dépression, maladies cardiovasculaires et même certains cancers. À l'heure actuelle, les biologistes identifient avec une précision croissante les mécanismes déclenchés lorsque notre corps se met en mouvement et classent les bénéfices de l'activité sportive dans 4 sphères de l'organisme. L'anatomie, la physiologie, le patrimoine héréditaire et le psychisme. En première partie donc, anatomie. Comment un entraînement physique régulier renforce nos organes internes? Quels que soient les effets du sport sur l'organisme, ceux-ci passent toujours en premier lieu par les muscles. En effet, le rôle de ces tissus fibreux ne se limite pas à nous faire avancer et bouger de manière purement mécanique, à l'instar de simples moteurs. Comme les chercheurs l'ont découvert récemment, les muscles se comportent également comme un système d'organes envoyant des messages qui amènent le corps à se renforcer, se renouveler et se soigner. Dès que les fibres musculaires se mettent en mouvement, elles libèrent des milliers de molécules protéiques transmettant des ordres aux autres organes, aux tissus et aux cellules dans tout l'organisme. Les muscles stimulent ainsi l'ensemble du corps et le poussent à se régénérer en permanence. Ce phénomène concerne tout d'abord notre anatomie, l'architecture même de notre corps, car chaque mouvement provoque une transformation des muscles eux-mêmes. Tandis que la graisse excédentaire est brûlée, ils deviennent plus volumineux et plus puissants sous l'influence des substances qu'ils sécrètent eux-mêmes au cours d'une activité physique, d'où une modification de la forme de tout l'appareil locomoteur, variable selon l'activité pratiquée et son intensité. Les muscles agissent également sur les os à travers les tendons, ce qui stabilise les appuis du corps et le rend suffisamment robuste pour ne pas se briser en éclats en cas de choc. Car comme les fibres musculaires, les os sont composés de cellules qui réparent et renouvellent l'organisme dès qu'elles sont stimulées. Enfin, l'exercice permet d'entretenir le rembourrage protecteur localisé dans les articulations et renforce les tissus qui les enveloppent. Les substances chimiques sécrétées à chaque mouvement agissent comme une pommade, un lubrifiant naturel. Elles enclenchent un processus physiologique qui aboutit à l'atténuation des douleurs articulaires ainsi que de certains rhumatismes inflammatoires. Le sport est le meilleur remède à l'arthrose qui, instinctivement, pousserait plutôt à stopper l'exercice. Pour nombre d'individus, s'astreindre à une activité corporelle régulière est le moyen d'éviter, grâce à la production de ces substances, le recours à des prothèses articulaires, du genou ou de la hanche par exemple. Une prévention qui se révèle déterminante lorsqu'on a passé un certain âge. Plusieurs études ont montré que la pratique d'un sport après 40 ans réduit le risque d'une intervention chirurgicale destinée à installer une prothèse. Partie 2, physiologie. Comment le sport opère au niveau cellulaire? En explorant l'influence des substances produites par les muscles sur le fonctionnement des cellules, les scientifiques se sont en particulier aperçus que courir, nager ou encore grimper stimulent des cellules de glandes endocrines. Une découverte qui pourrait expliquer que l'activité physique favorise la sécrétion d'hormones sexuelles chez les femmes à la ménopause, ce qu'ont démontré différentes études, tandis qu'elle permet de combattre l'impuissance chez les hommes. Les chercheurs ont aussi établi que la fabrication de certains globules blancs du système immunitaire est accrue chez les individus faisant régulièrement du sport. Le nombre de ces cellules protégeant l'organisme contre l'intrusion d'agents pathogènes décroît en théorie avec l'âge, mais l'activité physique freine durablement ce processus. L'exercice a aussi un effet positif sur les cellules de l'estomac qui, sous l'influence des substances chimiques sécrétées lors de l'effort, décomposent plus rapidement l'excès de sucre et les graisses. D'où un moindre risque de diabète, de syndrome métabolique et de surpoids. Certaines substances responsables de l'apparition de tumeurs, sont également plus vite éliminées. Ceci pouvant expliquer que les sujets ayant une pratique sportive régulière soient 2 fois moins touchés par les cancers de l'estomac. Par ailleurs, une activité physique ciblée atténue le syndrome d'épuisement que le patient atteint de cancer connaît souvent pendant et après la chimio et la radiothérapie. Se fondant sur ce constat, les cancérologues conseillent à de nombreux patients d'être physiquement actifs pendant et après le traitement. Un changement radical dans les pratiques puisqu'il y a quelques années, ils prescrivaient le repos le plus longtemps possible. Dans les jours qui suivent un infarctus également, de plus en plus de malades se voient conseillés de se remettre à marcher, voire à courir. Car par son action sur la capacité cardiaque, l'activité physique assure un bon approvisionnement des cellules en nutriments et en oxygène. Et si certains petits vaisseaux se bouchent au niveau du cœur, l'exercice incite le corps à compenser ces goulots d'étranglement par la création de néo-vaisseaux constituant un système de dérivation naturelle. Pour les patients ayant déjà subi un accident cardiaque, l'entraînement régulier réduit le risque de récidive de 20% par rapport à celui des sédentaires, tandis que le risque de maladie cardiaque est réduit d'un tiers pour les personnes en bonne santé. Les affections cardiovasculaires étant la deuxième cause de mortalité en France, la pratique du sport pourrait sauver de nombreuses vies.
Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will prove this fool. Party people in the house, move.
Donc, nous reprenons la lecture de cet article en deux parties sur les bénéfices de l'effort physique après ce morceau intitulé « Gonna Make You Sweat » de CNC Music Factory. Alors, partie 3, la génétique. Comment courir, nager ou jouer au football peut nous permettre de réparer notre ADN? Certains experts estiment que les effets bénéfiques de l'activité physique se propagent à une échelle plus petite que la cellule, jusque dans notre ADN sur lequel est gravé notre patrimoine héréditaire. L'exercice aurait ainsi une influence sur les plans de construction déterminant les caractéristiques et le fonctionnement de notre organisme. En effet, après seulement 20 minutes d'effort physique, un processus, qui s'apparente bien à l'un des rêves les plus fous de la médecine, s'enclenche au niveau de la molécule d'ADN, la réparation de notre patrimoine héréditaire. Car le sport a pour conséquence de lever des petits blocages chimiques qui peuvent empêcher l'expression de certains gènes. Ces blocages résultent par exemple d'un stress intense ou d'autres facteurs de notre environnement et s'accumulent sur l'ADN au cours de la vie, perturbant de plus en plus l'accès à des informations importantes portées par la molécule de l'hérédité. Les spécialistes n'en savent pas encore, n'en savent pas encore beaucoup sur ce processus appelé épigénétique, mais il est probable, du moins, c'est ce que certains d'entre eux espèrent, qu'à l'avenir, des exercices physiques précis permettront d'améliorer l'élimination de ces blocages qui peuvent se constituer sur la molécule d'ADN. Partie 4, enfin, psychisme. Comment l'activité physique influe sur notre humeur et notre fonctionnement mental? Les messages chimiques envoyés par les muscles ne se contentent pas d'influer sur notre forme physique. Ils ont aussi un effet sur notre esprit, puisqu'en étant physiquement actif, un individu stimule ses capacités intellectuelles et renforce son bien-être psychique. Ce constat n'a certes rien de nouveau. Au Moyen-Âge déjà, les savants reconnaissaient que l'exercice influençait l'humeur d'une personne, même si la maxime, bien connue tirée des satires du poète romain Juvénal, « Mens sana in corpore sano »,« esprit sain dans un corps sain », concernait au départ une supplique adressée aux dieux et non un objectif de santé par le sport. Il aura néanmoins fallu attendre ces dernières années pour que les chercheurs découvrent progressivement que l'effort n'est rien de moins que l'une des conditions essentielles à notre bien-être psychique. Rares sont les activités qui stimulent autant le développement cérébral des enfants que l'exercice physique. Celui-ci renforce la maturation des facultés cognitives, telles la résolution d'équations mathématiques et la mémorisation de nouveaux mots. Il est également prouvé que l'effort corporel a un effet positif sur notre intelligence tout au cours de notre vie, car toutes les activités physiques augmentent le flux sanguin et ainsi la quantité de sang, d'oxygène et de substances chimiques circulant jusqu'au cerveau, le siège de nos pensées et de nos émotions. Ce surcroît d'afflux sanguin contribue à ce que l'interconnexion complexe des milliards de cellules nerveuses situées dans notre cerveau demeure en bon état de marche pendant plusieurs décennies. De nouvelles connexions mûrissent alors entre nos neurones et de nouvelles cellules apparaissent, contrairement à ce que l'on a longtemps affirmé, nous permettant ainsi de conserver ou de développer nos facultés mentales. Les chercheurs ont observé que même à un âge avancé, des promenades actives quotidiennes avivent les facultés intellectuelles. Ces différentes découvertes ont conduit certains scientifiques à soulever des questions ambitieuses. L'effort physique pourrait-il empêcher la destruction des cellules nerveuses, comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer? L'activité sportive pourrait-elle permettre à l'esprit de ne jamais sombrer dans la démence? L'exercice au grand art pourrait-il simplement stimuler des pensées créatives ou analytiques? Il est démontré par exemple que les dépressions ou les sentiments maladifs de mal-être pouvaient être soignés aussi efficacement par la pratique régulière d'une activité physique que par la prise de médicaments psychotropes ou par le suivi d'une thérapie. Même dans des cas d'alcoolisme, de crise d'angoisse ou de troubles obsessionnels, un entraînement physique modéré accroît les chances de guérison. Par exemple, lorsque les muscles travaillent, la concentration en sérotonine augmente dans notre système nerveux avec un effet antidépresseur très rapide. Ainsi, de nombreux thérapeutes ne s'appuient plus seulement sur l'utilisation des méthodes traditionnelles pour soigner leurs patients. Ils vont parfois se promener avec eux, les envoient sur un ergomètre, tapis de course, rameur, vélo fixe, etc., ou organisent des groupes de jogging ou des cours de danse. Chez les patients qui souffrent de troubles d'angoisse, l'exercice déclenche en outre un autre processus bénéfique. Lorsqu'ils pratiquent un sport, ces personnes font l'expérience de réactions corporelles qu'ils associent habituellement au sentiment de panique. Accélération du rythme cardiaque et de la respiration, sueur, vertige, elles apprennent de cette manière que de telles modifications sont tout à fait normales et pas nécessairement des signes d'angoisse. Tout ceci ne signifie pas pour autant que plus on s'exerce physiquement, mieux on se porte. Comme pour la prise d'un médicament, il faut respecter les mesures pour éviter un surdosage entraînant des effets indésirables. Des sportifs trop ambitieux qui s'entraînent de façon trop intensive, trop longtemps ou trop souvent, en courant par exemple des dizaines de kilomètres chaque jour, exposent leur cœur à des dommages. Lors d'efforts aussi extrêmes, la probabilité de se déchirer un ligament, de s'abîmer les articulations ou encore d'enflammer des tissus augmente également. Quelle est alors la dose idéale de sport? Où se situe la limite entre pas assez et trop d'efforts physiques? Selon les experts, un entraînement modéré suffit déjà à produire des effets positifs sur notre organisme. Le risque de mortalité, toutes causes confondues, diminue alors de 15% dès que le seuil de 15 minutes d'exercice par jour est atteint. Brûler 1000 calories par semaine en pratiquant une activité corporelle de façon régulière et prolongée dans le temps n'est pas très difficile. Un marcheur énergique brûle par exemple 330 calories en une heure, un cycliste rapide double ce chiffre. Un effort mesuré pourrait alors prendre la forme suivante. Une bonne demi-heure de marche 5 jours par semaine ou 30 minutes de course à pied ou de vélo 3 fois par semaine. Mais il est également possible d'atteindre les mêmes effets positifs ou en encore moins de temps. Par exemple, en 9 minutes de vélo par semaine à une vitesse rapide et en plusieurs sessions. Quoi qu'il en soit, le message clé de la recherche actuelle sur la question demeure. Le principal, c'est de bouger. Pas une heure ne devrait s'écouler sans que l'on bouge, car Homo sapiens n'est fait ni pour le sport extrême ni pour les mobilités prolongées, mais pour une diversité de mouvements pratiqués de façon modérée et régulière. 2 semaines sans activité peuvent produire l'effet d'un vieillissement de 2 décennies. Et seul un entraînement sportif peut ensuite inverser les conséquences d'une telle diminution physique. En une phrase, en l'absence d'activité physique, un état de désolation règne dans le corps humain, comme s'il perdait toute son énergie vitale. Car la vie a besoin de mouvement, tandis que l'immobilisme appartient à la mort.
Lumière naturelle, astuce de pro pour afficher un teint éclatant après les excès des fêtes. Alors les bons trucs, revenir à la base. Pas de teint lumineux sans une peau en santé. On l'exfolie 1 ou 2 fois par semaine et on la démaquille méticuleusement chaque soir. Il reste des traces sur la lingette, on recommence. Avoir la main légère, on troque son fond de teint ultra couvrant contre une crème teintée hydratante qui unifie et illumine la carnation. On se rappelle aussi que moins on en met et plus on estompe, mieux c'est. Choisir les bons produits. Pour obtenir un effet bonne mine, on privilégie des fards à la texture crémeuse ou en gel, auxquels on superpose une touche d'illuminateur nacré mais non pailleté. Et les erreurs à éviter ? Confondre luisance et brillance. L'illuminateur doit être utilisé de manière subtile et ciblée. On l'applique avec les doigts du haut de la pommette jusqu'à l'arcade sourcilière. Si la peau n'est pas grasse, on effleure aussi l'arête du nez, la pointe du menton et l'arc de Cupidon. Il faut poudrer tout le visage, porter un maquillage de soirée, le teint doit voler la vedette. Et trop, c'est trop. La peinture au rouleau, c'est pour les murs, pas pour le visage.
Voilà, moi j'ai une enquête sur un phénomène en vogue. Un article d'Andrea Seram Dano dans le clin d'œil de décembre 2014. Sommes-nous tous drogués aux séries télé?
Oui.
Et attends, tu vas voir. Jeudi, 19h30, Jade, 32 ans, range la vaisselle et s'installe devant la télé. Toute la journée, elle a été hantée par les images du dernier épisode de la 2e saison de Walking Dead, visionné la veille. Le groupe de survivants a été séparé, ce qui l'inquiète au plus haut point. Que leur arrivera-t-il? Heureusement, elle n'a qu'à démarrer la 3e saison pour connaître la suite des choses. Secrètement, elle espère même que son chum rentre tard du bureau pour profiter de sa série le plus longtemps possible. Jade n'est pas la seule à consommer des séries télé compulsivement, comme d'autres le font avec de la drogue ou de la nourriture. Cette nouvelle façon de regarder la télévision, nommée le visionnement compulsif, qui consiste à regarder plus de 2 épisodes de suite d'une série, est de plus en plus répandue. Un sondage mené par Netflix auprès de 1500 abonnés américains révèle que 61% d'entre eux regardent régulièrement plus de 2 épisodes de suite. 91% des utilisateurs de TIVO, un magnétoscope numérique enregistrant des programmes télévisés, confient, pour leur part, regarder 3 épisodes ou plus de suite de leur série, de leur télésérie préférée à la fois. Selon Hugo Dumas, chroniqueur télé à la presse, on ne prend conscience du problème qu'une fois qu'il est trop tard. Tu termines un épisode, puis tu en commences un autre. Tu continues ainsi et tu te rends soudainement compte qu'il est 3 heures du matin et que ça fait 7 heures que tu es devant la télévision. Ça devient presque troublant pour la vie normale et la vie en société. La question se pose, sommes-nous rendus dépendants aux séries télé? La dépendance à la télé est largement reconnue par les scientifiques, même si elle n'a pas encore le statut de maladie. En 2002, le professeur en études des médias Robert Cubé et le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi établissaient qu'il ne faudrait que 30 secondes à notre cerveau pour tomber sous l'emprise d'un épisode. Dans un article paru dans le journal Scientific American Mind, Cubé et Csikszentmihalyi explique que notre cerveau émet alors des ondes nous plongeant dans un état de conscience vaporeux et que notre corps relâche des endorphines, les hormones naturelles du plaisir. Le résultat? Un état de relaxation intense et une forte implication émotionnelle. Selon eux, les drogues addictives fonctionnent de même de façon similaire. Plus encore, la fin abrupte d'un épisode contribuerait au développement d'une dépendance. Un tranquillisant qui quitte rapidement le corps est beaucoup plus susceptible de provoquer une dépendance que celui qui s'élimine lentement, car l'utilisateur est plus conscient que l'effet de la drogue disparaît, écrivent les deux chercheurs dans le même article. Un autre point en commun des séries télé avec la drogue? Le symptôme de sevrage, aussi connu sous le nom de « juste un dernier » dans le cas des télévores. Eh oui, eh?
Je croirais m'entendre.
Les deux scientifiques expliquent de la même façon le vague sentiment appris du téléspectateur lui dit qu'il sera moins détendu s'il arrête le visionnement, un facteur important qui l'empêche de fermer la télévision. Le visionnement compulsif serait donc un moyen de contrer le sentiment désagréable du sevrage à la fin d'un épisode. En redémarrant la machine à endorphines, on s'engage dans un cercle vicieux sans fin. Autrefois, les séries télévisées étaient construites pour être épisodiques, c'est-à-dire que chaque épisode pouvait être visionné dans un temps et une séquence différente sans perdre le téléspectateur pour un temps. Peu à peu, les chaînes américaines ont suivi le courant pour établir une nouvelle norme. Depuis quelques années, un autre changement radical a été observé, celui-là même à l'origine de notre dépendance. Tous les éléments de la série sont orientés vers l'ultime question. Qu'arrivera-t-il ensuite? Ces intrigues, si bien ficelées, ne sont évidemment pas le fruit du hasard. Elles sont fabriquées sur mesure pour nous manipuler. Le docteur Uri Hassan, psychologue et enseignant à l'Université Princeton, étudie la neurocinématique, un terme qu'il a créé pour désigner ses recherches sur l'interaction neurobiologique des films avec le cerveau. En 2008, il a étudié la réaction du cerveau après le visionnement de plusieurs séquences de films différents à l'aide d'une IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Les résultats sont étonnants. Le cortex cérébral s'active davantage lorsqu'il est soumis à un film dont l'intrigue est bien fignolée et linéaire, démontrant un intérêt distinctif. La façon dont le film est tourné, la vitesse de mouvement de la caméra et les angles choisis nous influencent donc inconsciemment. La conclusion du Dr. Hassan, plus le réalisateur tente de contrôler son public en faisant un film très structuré, plus ce dernier sera attentif. Et c'est exactement ce que les créateurs de téléséries font. Selon le chercheur, les films et les séries télé sont très semblables. On y pose une question au début de la narration dont le public veut connaître la réponse. Il souhaite suivre le personnage dans sa quête. Les gens veulent vraiment savoir ce qui arrive ensuite. C'est probablement ce qui incite le visionnement d'épisodes en rafale. Mais il n'y a pas que des aspects sombres à être un mordu de télésérie. Et vois-tu, Dominique, tous les amis et les collègues accros formeront un merveilleux groupe de soutien lorsque notre personnage préféré passera tragiquement l'arme à gauche. Un peu comme partager l'amour d'un sport ou d'un hobby, rencontrer des gens qui suivent aussi les déboires de nos personnages préférés confère un certain sentiment d'appartenance, révèle Hugo Dumas. Certaines émissions ont ramené le plaisir d'écouter une série en gang. Vivre cette expérience de façon collective procure l'espèce d'excitation et d'anticipation qui se transmet autour de la machine à café. Ça donne l'impression de tenir quelque chose de croustillant et de faire partie de cette sorte de société secrète, conclut le journaliste Hugo Dumas.
Alors, moi, je reste dans 2015 avec nos envies, tout ce qu'on veut goûter, tester, aimer, adopter cette année. C'est un texte par Violaine Charest-Sigouin, Emmanuel Martinez-Curval et Sylvie Michelon dans le Elle Québec de janvier 2015. On s'abonne à des petits plaisirs. Et si à la place des sempiternelles factures, on trouvait une petite surprise dans notre boîte aux lettres? Voilà l'idée géniale de la compagnie britannique Not Another Bill. C'est notanotherbill.com qui, chaque mois, envoie à ses abonnés de jolis cadeaux. Selon le même principe, la confiserie artisanale Disette Nationale, disettenationale.com, nous invite à devenir membre du cercle des croqueurs de choses sucrées pour avoir droit, 6 ou 12 fois par année, à de délicieuses sucreries. Quant au fleuriste montréalais Garçon Fleur, c'est garçonfleur.com, il propose des abonnements mensuels à ses bouquets de fleurs sauvages, qui sont en prime livrés à vélo pendant la belle saison. On monte à bord d'un fashion truck. Maintenant que la tendance des restaurants ambulants roule à fond, c'est au tour de camions bourrés de fringues de sillonner les villes les plus branchées. Bonne nouvelle, la vague est arrivée chez nous. Et on peut faire le plein de looks super à bord des fashion trucks de la Montréalaise Atelier, c'est la montréalaiseatelier.com, et de Nomade Boutique Mobile, nomadeboutiquemobile.com. On vit à la campagne toute l'année grâce à ces pagaies colorées imaginées par la designer québécoise Natacha Witke pour norquetco.com, qui donne des allures de chalet à notre intérieur. On s'invite à manger chez son voisin pour goûter à sa fameuse sauce bolognaise, dans la cour d'un parfait inconnu pour avaler un bol de soupe réconfortant ou dans un des nombreux autres restaurants éphémères qui ouvriront leurs portes le 15 février à l'occasion du Restaurant Day, restaurantday.org. Quatre fois par année, des citoyens de plus de 200 villes dans le monde s'improvisent chefs d'un jour pendant ce carnaval culinaire. Et ils ne sont pas les seuls à nous convier dans leur salle à manger. Des sites comme eatwith.com et cookening.com nous proposent de dîner chez l'habitant à Berlin, New York ou Paris. Quant au réseau social Airbnb, il évalue présentement la possibilité de permettre à ses membres d'offrir des repas en plus du logis. Voilà qui nous met en appétit. On défile au gym. Être couverte de sueur et soufflée comme une locomotive, ça n'a rien de très élégant. Et pourtant, cet hiver, les gourous du style se sont donné le mot pour glamouriser nos séances d'exercice. Les modeuses sont déjà prêtes à chausser des baskets dorées de la dernière collection de Chanel, ou à enfiler les survêtements à l'allure couture de Marie Katranzou pour Adidas. Quant aux sneakers addicts, elles rêveront de glisser le pied dans les créations de Raf Simons, le directeur artistique de Dior, ou des designers d'avant-garde Rick Owens, qui ont eux aussi mis leur créativité au service d'Adidas. Même la chaîne britannique Topshop s'est mise de la partie et a annoncé pour l'automne prochain une collection de vêtements sport conçue par Beyoncé. Reste à voir si un pantalon de jogging signé Queen Bee nous donnera assez de motivation pour mettre en pratique nos bonnes résolutions. Ça, c'est à voir. On fait briller le laiton. Impossible de passer à côté des lampes de Tom Dixon, tomdixon.net, qui illumine les restaurants et les hôtels les plus branchés du globe. Pour 2015, le génial designer britannique annonce la tendance du laiton et livre une nouvelle version de ses luminaires Beats devenus cultes. On adopte la techno-cosméto, un soin qui détecte les besoins particuliers de notre peau et libère ses ingrédients actifs en conséquence. Ce n'est pas trop beau pour être vrai. La preuve, Clinique lançait il y a quelques mois Clinique Smart, un sérum à l'action sur mesure. Encore plus futuriste, les crèmes à mémoire de forme, comme la Miracle Sleeping Cream de Garnier, qui sera sur le marché dès ce printemps. Ces produits, qui ont la consistance d'un gel, s'appliquent par effleurage et en séchant forment une légère gaine élastique qui lisse la peau. On peut s'attendre à retrouver bientôt cette technologie dans nos soins du jour, nos crèmes de nuit et même notre maquillage. On jette son mouchoir, ou pas. Il est difficile d'imaginer qu'un prétendant puisse ramasser un vieux Kleenex qu'on aurait négligemment laissé tomber derrière soi. Mais un des jolis carrés colorés de la compagnie montréalaise Tshu, ça s'écrit T-S-H-U, tshu.ca, pourrait bien, lui, susciter pareille galanterie. Raison de plus de faire provision de ces mouchoirs en tissu semblables à ceux de nos grands-mères qui nous permettent de sauver quelques arbres tout en réduisant nos dépenses à la pharmacie. On s'imprime des rêves. Tous les pros de la techno le disent. L'impression 3D va révolutionner notre manière de consommer. Déjà, Grace Choi, une New-Yorkaise de 30 ans, a imaginé le prototype de Mink, graceming.com, une imprimante permettant de créer des produits de beauté à la volonté. Par exemple, si le rose d'un coucher de soleil nous fait chavirer, il suffira de le prendre en photo pour pouvoir ensuite imprimer un fard à paupières ou un rouge à lèvres exactement de cette teinte. Quant au studio de design australien XYZ Workshop, il nous donnera la possibilité de télécharger gratuitement plusieurs de ses créations, dont le patron d'une robe en dentelle, qui, pour se matérialiser, demande pas moins de 450 heures d'impression. On rêve du jour où on pourra s'imprimer un sac Chanel en seulement quelques minutes.
Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue. Sur mes sentiments illimités, je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je vais le remplir de bon. Sachez que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
Vient d'entendre « Je veux tout » d'Ariane Moffat.
Eh bien, ça correspond à mon titre.
Ben oui!
Je vais vous parler. Oups! J'ai encore trop parlé par un article dans Moi et compagnie de décembre 2014 par Clémence Rillet. Et oui, eh bien, c'est aussi comment éviter de se mettre les pieds dans les plats, comme on dit. Donc, une blague trop salace, un commentaire déplacé sur l'apparence de quelqu'un ou une opinion très tranchée. Tout le monde connaît quelqu'un qui a tendance à s'attirer les foudres des gens parce qu'il est trop bavard. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin d'exprimer sans aucun filtre tout ce qui leur passe par la tête, au risque de déstabiliser, voire de blesser les autres? Est-ce par souci d'authenticité, au nom de l'ouverture d'esprit, ou par simple insouciance? Il s'agit bien souvent de maladresse, précise d'emblée la psychologue organisationnelle Evelyne Marcille-Denoux. En milieu de travail, je remarque par exemple que des propos trop directs peuvent être perçus comme un moyen d'avoir une emprise sur ceux à qui ils sont adressés. Pourtant, bien que ce genre de jeu de pouvoir existe, c'est rarement l'intention de celui qui en dit trop. Citant les recherches de Carl Gustav Jung, un éminent psychologue suisse du siècle dernier, Evelyne Marcille-Denoux souligne que la population serait divisée en parts presque égales, mais à différents degrés, en personnes introverties et extraverties. Devant une situation, le modus operandi des premières consiste à penser avant d'agir. Pour les secondes, c'est l'inverse. Elles suivent leur impulsion et agissent avant de réfléchir. Chaque mode possède ses avantages et ses inconvénients, nuance la psychologue. Les extravertis sont peut-être plus à risque de gaffer, mais les introvertis laissent parfois passer de belles occasions. La personnalité de l'individu avec qui on discute, les liens qui nous unissent et les circonstances comptent également pour beaucoup. Quand on partage notre vie avec quelqu'un, on finit par connaître les frontières à l'intérieur desquelles on peut se parler, explique la psychologue. Il s'agit d'un consentement implicite. Il y a des gens qui arrivent à être assez directs avec leur entourage intime sans avoir à mettre de gants blancs. Mais en milieu de travail, ces mêmes personnes ne peuvent pas être aussi expéditives sans que ce soit très mal perçu et que la situation dégénère en conflit. Bonne nouvelle, acquérir un plus grand sens de la diplomatie et de la retenue n'est pas mission impossible. Cela nécessite cependant un important travail d'introspection. Madame Marcille-Denoux souligne qu'il faut surtout apprendre à être attentif à soi-même. La première étape consiste à évaluer comment se déroulent de façon générale nos interactions sociales. Est-ce que des conflits éclatent souvent avec les autres? Est-ce que les gens semblent avoir envie de nous parler? Quand quelque chose nous fait réagir avant d'ouvrir la bouche tout de suite, on prend quelques secondes ou quelques minutes, selon la situation, pour prendre conscience de nos émotions et pour se parler intérieurement, conseille la psychologue. On doit se demander si le commentaire qu'on s'apprêtait à émettre va nous aider ou nous nuire, s'il est vraiment approprié et si c'est le bon moment pour le placer. Bref, on met des mots sur ce qui vient de se passer, mais dans notre tête, évidemment. Il y a fort à parier que quelqu'un qui a du mal à prendre conscience de ses propres réactions ne sera pas très doué pour décoder celles des autres. C'est donc sur ce deuxième point qu'il faudra aussi travailler. Lorsqu'une personne est heurtée par un commentaire, il est rare qu'elle le fasse savoir. On essaie donc d'être attentif au langage non-verbal. Quelle expression peut-on lire sur le visage de son interlocuteur? Son visage devient-il fuyant? Sa posture générale marque-t-elle une fermeture ou un recul? La psychologue suggère aussi de se mettre dans la tête de l'autre personne afin d'anticiper la façon dont elle reçoit les messages. Les messages! On peut imaginer que les rôles sont inversés et se demander si l'on aurait aimé recevoir un tel commentaire. Cette capacité d'empathie caractérise les gens qui se révèlent très habiles socialement, capable de s'adapter à différentes circonstances. Ils savent éviter les situations où ils feraient figure d'éléphant dans une boutique de porcelaine. Je crois qu'il est toujours possible d'améliorer son écoute de soi et des autres, termine la spécialiste. Toutefois, si les obstacles pour y parvenir semblent infranchissables, je conseille de se tourner vers une méthode comme la méditation ou encore de consulter un psychologue. Côtoyer des personnes trop volubiles, mode d'emploi. Une collègue nous a demandé si l'on n'aurait pas un peu engraissé. Il y a plusieurs façons de réagir quand on se fait balancer une parole qui ne fait pas notre affaire. Madame Marcille-Denoux suggère de se dire que cette personne-là ne connaît pas nos limites. il ne faut pas présumer que son commentaire était méchant ou qu'elle voulait nous provoquer. Ou renseigner la personne sur nos limites et d'éveiller sa conscience. On ne répond pas à la question, mais on fait plutôt remarquer à notre interlocuteur qu'elle était un peu spéciale et très directe. Vous avez tendance à trop parler? La psychologue Evelyne Marcille-Denot révèle quelques points à retenir. Dans nos conversations, essayez d'appliquer le principe du 50-50, soit 50 % intéressés et 50 % intéressantes. Pratiquez l'écoute active, en posant des questions et en vous concentrant sur les propos de vos interlocuteurs. Vous pouvez résumer ce qu'ils viennent de dire, entre autres. Soyez sensible et curieuse. Prêtez attention aux indices non-verbaux que vous envoie votre interlocuteur plutôt qu'à cette idée que vous avez tellement envie d'exprimer. Dans une réunion, prenez quelques secondes pour réfléchir avant de parler. Surtout si vous avez déjà pris la parole, votre idée ajoutera-t-elle quelque chose au débat? Est-ce que quelqu'un essaie de parler? Est-ce que tout le monde a eu la chance de s'exprimer? Comme vous avez l'appareil facile, jouez un rôle de facilitateur en invitant les gens discrets à prendre part au débat d'idées.
Est-elle prête à garder? Il n'y a pas d'âge légal pour garder un enfant, mais avant 12 ans, c'est probablement trop tôt. Après cela, dépend surtout de son degré de maturité et d'autonomie. On connaît notre jeune, on sait si elle est assez responsable pour veiller sur d'autres enfants. Est-elle à l'aise de rester seule à la maison? Débrouillarde? Aime-t-elle s'occuper d'enfants plus jeunes? A-t-elle déjà gardé son frère ou sa sœur? Sait-elle comment réagir dans diverses situations d'urgence? Autant de questions qui nous aideront à déterminer si elle est prête. On lui suggère aussi de suivre les cours de gardien averti de la Croix-Rouge, un incontournable pour acquérir les bases des soins aux enfants et de la sécurité. Pour trouver un cours, il suffit de faire croixrouge.ca. Pour des débuts en gardiennage, faire souper 3 enfants de moins de 5 ans et s'occuper d'eux jusqu'aux petites heures, c'est beaucoup. Idéalement, notre enfant devrait commencer par garder un ou deux enfants de plus d'un an pour de courtes durées, puis prendre graduellement des engagements plus exigeants à mesure qu'il gagnera en confiance et en expérience. Il pourrait aussi être rassuré de savoir qu'il peut nous joindre s'il est dépassé par les événements.
Alors, je reste sur la même thématique, exercice, quels effets sur notre corps? Les bienfaits du sport ne s'exercent pas que sur nos muscles, mais aussi sur le métabolisme, la pression artérielle, les poumons et les os. Point 1, la masse musculaire. Augmente plus vite durant les 2 premières semaines d'entraînement. Chez un sportif, les muscles travaillent de façon plus efficace et sont plus résistants, et le métabolisme de base s'accroît. 2. Le volume cardiaque passe, au cours de l'effort, de 600-800 ml à 1700 ml. Le cœur d'un sportif de haut niveau peut propulser dans ses vaisseaux jusqu'à 200 ml de sang par battement, 2 fois plus que le cœur d'un individu non entraîné. 3. Les molécules de sucre parviennent plus facilement dans les cellules de l'athlète. Plus vite acheminées jusqu'aux muscles, elles y livrent l'énergie nécessaire au mouvement. Les sucres sont également le nutriment essentiel du cerveau et des reins. 4. L'oxygénation des cellules est accrue chez les sportifs car ils respirent un volume d'air jusqu'à 5 fois supérieur à celui des sédentaires, même si la fréquence est plus lente. Sans entraînement, cet approvisionnement diminue avec l'âge. 5. Le métabolisme de base, énergie dont l'organisme a besoin pour assurer les fonctions vitales au repos, s'accroît quand la masse musculaire augmente. Le corps produit alors plus de chaleur, puisant plus efficacement dans ses réserves de sucre. 6. La température corporelle s'élève durant l'effort car les muscles transforment l'énergie chimique en mouvement et chaleur. Après une heure de course, elle devrait progresser de 23 degrés, ce dont nous protège un système de refroidissement très efficace, la transpiration. 7. La densité des os s'intensifie lorsqu'une activité à impact, comme la marche ou la course, est pratiquée. Les cellules formant la matrice osseuse se multiplient, réduisant le risque de fracture. Les tendons des sportifs sont aussi plus élastiques que ceux d'un sédentaire. 8. La pression artérielle s'abaisse car les vaisseaux sanguins s'élargissent. Pratiquer la marche de manière régulière à un rythme un peu soutenu suffit déjà à produire un tel effet, surtout chez les personnes souffrant au départ d'hypertension.
Eh bien, notre émission est déjà terminée. Merci à vous pour ce moment passé avec nous. Merci à Jean-Sébastien Laliberté et à Rémi Hermoso pour leurs choix musicaux et leur mise en onde. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220, ou sur notre site de canal m.org. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye.
Bye bye. Salut.